Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y aura 30 ans, vendredi, disparaissait la princesse Grâce de Monaco, l'une des figures emblématiques du XXe siècle. Et Franck Ferrand revient aujourd'hui sur Europe 1 sur le destin inouï de cette femme. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
C'est et vous avez convié, bien sûr,
oui,
Jean Descartes à nous rejoindre.
Jean Descartes, qui a bien connu personnellement la princesse Grâce. Il connaît aussi mieux que personne l'histoire de Monaco et des Grimaldi. Je suis ravi qu'il ait pu se libérer pour nous aider à mieux comprendre la personnalité nuancée de Grâce Kelly.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La princesse a disparu il y a 30 ans, donc tous ceux qui ont au moins, disons, 40 ans, gardent un souvenir plus ou moins ébloui de cette femme d'une beauté souveraine, ne serait-ce qu'à travers ses apparitions télévisées. Pour les autres, les plus jeunes, quelle image ont-ils de Grace Kelly? Eh bien, sans doute plutôt celle de la sublime actrice, l'égérie d'Alfred Hitchcock. Une présence hors du commun pour cette femme aux allures de déesse, réservée pour le reste, timide même, extrêmement bien élevée, toujours souriante et bienveillante, gênée en public par sa myopie et fragilisée sans doute par de fréquentes crises d'asthme. Je vous propose d'aller la retrouver aux sources même de son invraisemblable destinée, dans les années 30, à East Falls, dans le quartier huppé de Philadelphie, où sa famille, véritable famille modèle, incarne jusqu'à l'excès le rêve américain. Son père s'appelle John B. Kelly Sr., on l'appelle Jack en vérité. C'est le fondateur d'une entreprise prospère de briqueterie. Il sera plus tard maire de Philadelphie. Il faut imaginer l'exemple même du businessman ultra charismatique. Vous avez 1m90, le sourire ravageur. Vous saisirez le personnage quand vous saurez qu'il a été champion d'aviron. Il a même remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. Jack estime que tout s'acquiert par le travail, la ténacité, par une certaine droiture, ce qui ne l'empêche pas de tromper sa femme allègrement, mais la façade est sauve, c'est l'essentiel chez ces Irlandais pétris de la religion du succès et chez qui l'humour et l'énergie affichées sont comme une seconde nature ou doivent l'être. L'épouse de Jack, du reste, est elle-même championne de natation. C'est une beauté blonde sculpturale, d'origine prussienne, un ancien mannequin, tempérament très fort, autoritaire chez cette femme qui élève ses 4 enfants avec beaucoup de cran, comme une fratrie de petits cygnes au milieu desquels, et c'est tout l'intérêt de ce genre de conte, au milieu desquels s'ébroue piteusement un vilain petit canard prénommé Grace. Les parents, Kelly, comprennent mal en vérité cet enfant si différente et si sensible, moins sportive que ses frères et sœurs. Sur les photos, on la voit toujours un peu en retrait, assez effacée, mal à l'aise. C'est l'arrivée d'une troupe d'amateurs, de comédiens amateurs dans le quartier d'East Falls, The Old Academy Players, à laquelle appartient un des oncles maternels de l'enfant. C'est l'arrivée de ces comédiens qui va éveiller en Grâce une sorte de flamme qui va révéler son goût du théâtre. Elle confie à son père son désir de devenir actrice. « Si c'est ce que tu veux faire, fais-le », lui dit-il. À 12 ans, elle fait donc ses débuts sur scène dans Don't Feed the Animals, défense de nourrir les animaux, un rôle qui lui vaut de nombreux éloges, dont ceux d'un gazetier local. Mademoiselle Kelly a brillamment passé son baptême du feu de la rampe, écrit-il. Elle est engagée pour une autre pièce, Le Porte-Flambeau, dont l'auteur, cette fois, est le fameux oncle, George Kelly. Il faut vous dire qu'à 14 ans, Grace en paraît 16, avec une magnifique chevelure blonde qui souligne l'extrême finesse, l'extrême douceur de ses traits, avec cela un teint de porcelaine, des yeux bleus intenses, un miracle de beauté. Sa gaieté, son humour lui attirent par ailleurs la sympathie générale et l'intérêt lourdingue des garçons. Elle sort diplômée de la Stevens School à l'été 1947 et elle décide aussitôt d'embrasser la carrière d'actrice. Direction New York. Lorsqu'elle se présente à l'American Academy of Dramatic Art, accompagnée d'une amie de sa mère, les inscriptions sont closes. Seulement, vous savez ce que c'est, dans ce cas-là, on dit tout ce qu'on peut. Elle prononce le nom de son oncle, George Kelly, Et c'était le bon sésame. Elle va pouvoir passer l'audition, avec le texte du porte-flambeau du reste. Malgré une voix qu'on dit nasale, mal placée, elle convainc le jury, bonne personnalité, très bonne présence scénique, instinct dramatique réel, intelligence vive, imagination positive. N'en jetez plus.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Il y a 30 ans disparaissait Grace Kelly. Nous en parlons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, bien connu des auditeurs, Jean Descartes, qui est journaliste, historien, écrivain et auteur notamment du livre Inoubliable Grace de Monaco aux éditions du Rocher.
Inoubliable Grace de Monaco, ça c'était il y a une bonne douzaine d'années. Depuis, Jean Descartes a également signé la saga des Grimaldi qui est disponible dans la collection de poche des éditions Perrin, donc chez Tempus. Bonjour Jean Descartes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et doublement merci, car, et ça arrive rarement dans une émission d'histoire et pour cause, vous avez, vous, personnellement, très bien connu la princesse Grace.
Oui, et c'est la première fois que j'ai écrit la biographie de quelqu'un que j'ai connu. J'ai attendu une quinzaine d'années, ce qui n'est pas facile. J'ai eu la chance de la connaître comme journaliste et de devenir, si j'ose dire, non pas un ami, mais une relation amicale, de confiance. Jamais elle n'est intervenue sur mes textes. Elle intervenait éventuellement sur les photos parce que c'était une professionnelle, elle connaissait son bon angle et tellement de gentillesse. Vous savez, je dirais simplement que lorsqu'elle entrait dans une pièce, il se passait quelque chose. Oui. Voilà, elle rayonnait.
On faisait silence.
On faisait silence et elle savait mettre les gens à l'aise tout de suite, ce qui est un autre talent.
Avant d'évoquer la princesse Jean Descartes, j'aimerais que nous parlions de l'actrice, évidemment. Elle a commencé par très tôt, et par des films qu'on ne connaît plus aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'elle passe pour l'intellectuelle de la famille.
Ça, oui.
Voilà, c'est dans cette famille où c'est le culte du résultat le meilleur. Ce sont des champions. Donc, elle va devenir une championne, et je dirais que c'est une championne, puisqu'elle devient célèbre en 4-5 films. 11 en tout, pratiquement. Alors le premier d'Henri Hathaway, 39 heures, un film policier oublié. Mais le second est tout de même entré dans la légende du cinéma. C'est le fameux « Train sifflera trois fois » où Gary Cooper dira que c'était une jeune fille très bien élevée et elle joue un rôle quand même très ingrat de l'épouse du shérif Quaker raisonneuse. Mais dans ce film en noir et blanc, elle est déjà lumineuse. Et alors ensuite, elle est tellement formidable que c'est Hitchcock qui va la repérer, qui va être son Pygmalion.
Avant de devenir l'égérie Hitchcock, elle est déjà une sorte d'icône aux États-Unis.
Hein.
C'est-à-dire que Hitchcock ne l'a pas découverte.
Ah non, il ne l'a pas découverte.
Et qu'est-ce qui a fait sa célébrité ? La beauté, le regard
la
un peu
beauté,
étrange.
La beauté, le regard étrange, la distance, l'éducation, un petit fond européen, je dirais.
C'est ça, voilà.
Qui des origines de sa mère, je présume. Jeune femme qu'on a vue un peu à la télévision, qui a fait un peu de théâtre, qui avait un discours dépassait celui du stade. Voilà, c'est ça qui est important, une intellectuelle et qui va rester toute sa vie une femme qui adore la lecture, la musique, le théâtre, évidemment le cinéma, et qui ne rompra jamais ses liens avec son métier.
On connaît la fascination d'Alfred Hitchcock pour les belles comédiennes blondes de Tippi Hedren à Kim Novak. Et là, en l'occurrence, il trouve en Grace Kelly l'idéal absolu de ce qu'il cherchait.
La bombe qui est juste avant l'explosion.
Ouais. Et le volcan sous la neige.
C'est ça. Et comme Hitchcock disait, je filme des scènes d'amour comme si c'était des scènes de meurtre et des scènes de meurtre comme si c'était des scènes d'amour, il trouvait que Grace Kelly était parfaite.
Alors on a tous évidemment un certain nombre de souvenirs. Peut-être le plus extraordinaire, c'est son apparition littéralement féerique dans la pénombre du petit appartement de ce photographe dans Fenêtre sur cour.
C'est un chef-d'œuvre.
Ray Wendo,
chef-d'œuvre
immense que j'invite tous nos plus jeunes auditeurs à courir regarder. Dès ce soir, elle arrive là, d'un seul coup, elle apparaît, elle crève l'écran.
Alors elle crève l'écran et je peux dire que quand elle entrait dans une pièce à nouveau, c'était la même chose. Avec distinction, classe, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humour, une allure quoi.
Mais c'est ça, voilà, c'est presque indescriptible ça,
oui,
il faut le voir.
C'est indescriptible, mais il y a une sensation et même les femmes le reconnaissaient, ce qui est tout de même un exploit.
Alors elle va tourner avec Hitchcock bientôt sur la French Riviera, elle vient sur la Côte d'Azur et spécialement à Monaco, on est au moment...
Alors, j'ai débuté, Franck, avec le journaliste de Paris Match, Pierre Galante, qui a eu l'idée de la rencontre entre le prince Rainier et cette star, car c'était devenu une star, mais une star au festival.
Au début, c'est un scoop de photographe.
C'est un scoop de photographe. Pierre Galante était l'époux de Olivia de Havilland, la célèbre Mélanie d'Autant n'emporte le vent, et que j'embrasse au passage parce que je l'ai vu il y a quelque temps. Et je dois dire que ce qui était une idée, un montage, est devenu un roman sans qu'on le sache. En plus, à l'hôtel Carlton, il y avait une grève, il y avait une panne d'électricité. Bon, alors elle n'était pas coiffée. C'est dans la voiture découverte des décapotables des photographes qu'elle va se coiffer. Elle m'a dit, j'avais une robe épouvantable, je ressemblais à une poire. Enfin, tout se présente très très mal. Elle était en délicatesse avec la maître Goldwyn-Mayer. Elle n'aimait pas les rôles qu'on lui proposait. Elle venait de recevoir un Oscar pour une fille de la province qui lui avait été remis par Marlon Brando, qui avait eu celui sur les quais, et William Holden. Donc c'était une star, et qui ne savait pas où était Monaco, et qui se demandait quelle langue parlait le prince de Monaco. Et on avait oublié de lui proposer déjeuner, donc vers 2h30 de l'après-midi, avant d'arriver au palais, en passant devant l'hôtel de Paris, il a demandé si on faisait des sandwichs dans cette maison. On lui a dit que c'était possible.
En gros, vous êtes en train de nous dire que c'était une journée où tout se passait mal, où tout se bousculait, et puis finalement a lieu la rencontre, cette séance de photos.
Le prince Rainier lui-même m'a dit, oui, nous avons à un moment regardé le bout de nos chaussures, nous étions très timides, et puis, dans la fameuse galerie d'Hercule, il lui fait visiter le palais, elle est dans un autre monde, c'était en effet un autre monde, et elle dira une chose très jolie, mais elle l'a dit discrètement, et des années après elle m'a dit, c'était un monde sans femmes, en effet il n'y en avait pas de femmes à Monaco depuis longtemps.
Extrait sur Europe 1 du film d'Alfred Hitchcock, La main au collet. Nous en parlions, Franck, sur Europe 1. A tout de suite avec votre invité Jean Descartes. Nous parlons aujourd'hui de Grâce de Monaco.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avant le récit de Franck, nous revenons sur le destin inouï de Grace Kelly en compagnie du journaliste, historien et écrivain Jean Descartes.
Et ce destin inouï, Julia, il se noue, vous savez, c'est toujours très intéressant de voir les sortes de coïncidences. Mais y a-t-il des coïncidences qui tissent littéralement ces destinées un peu extraordinaires? Vous me disiez pendant l'interruption, Jean, vous me racontiez que dans une des scènes de La main au collet, To Catch a Thief en anglais...
Alors oui, dans ce film de 1954, donc bien avant la rencontre organisée entre le prince Rainier et la star, qui avait déjà tourné Mogambo, enfin tout ça, et qui était vraiment une vedette fantastique, dans ce film... Ils sont dans une voiture, tous les deux, et on voit dans le fond le rocher, la principauté de Monaco. Et il y a cette réplique que prononce Cary Grant dans son rôle à cette jeune américaine. Il lui dit, dans le fond, vous êtes venu en Europe pour vous marier. C'est incroyable, hein, un an et demi avant le mariage effectif.
Donc, elle viendra bien en Europe pour se marier. Alors les Américains ne savent pas où est Monaco à l'époque.
C'est très intéressant parce qu'ils croient que c'est le Maroc.
Ah, c'est ça, Morocco, Monaco.
Mais en revanche, les joueurs savent où est Monte Carlo, quartier mondain élégant. Donc la princesse va faire beaucoup pour la connaissance. Il y a quelque chose d'intéressant lorsqu'elle va arriver... à bord du Constitution.
Constitution qui est le grand yacht, c'est un paquebot
transatlantique. Oui. Elle a un chapeau au bord très large et elle l'a raconté souvent. Elle a dit, j'ai fait une erreur parce que les femmes n'ont pas vu mon visage. Et je fais attention depuis à avoir des chapeaux. C'est un peu comme la reine d'Angleterre, il faut qu'on voit le visage du personnage. C'était trop caché.
Quand le navire est arrivé devant Monaco, on a fait pleuvoir des œillets rouges et blancs, couleur de la principauté. C'était Onassis qui était derrière cette opération.
C'était Onassis qui sera l'adversaire du prince Rainier. Dans le fond, dans la vie du couple Rainier et Grâce, il y aura deux adversaires. Un adversaire financier, un adversaire politique. C'est Onassis qui essaye de racheter la société des de mer, mais qui va trouver à qui parler avec le sens des affaires extraordinaires du patron qu'était le prince Rainier et le général de Gaulle en 1962.
Crise dans laquelle la princesse Grâce a d'ailleurs joué un rôle, puisqu'elle a servi de diplomate, on peut le dire.
Je précise tout de suite, parce qu'on l'oublie souvent, que le prince Rainier m'a raconté que la crise 62, où tout d'un
ça
coup...
Ça allait très mal avec la France.
La France voulait couper l'eau et le gaz à la principauté pour des raisons d'harmonie fiscale. Il y avait en fait une raison différente, le prince Régnier me l'a dit dans son bureau, deux ou trois fortunes pieds noirs rapatriées, puisque nous sommes
juste au moment de l'indépendance algérienne,
dans ce drame douloureux épouvantable, avaient mis leurs fonds dans des banques de Monaco à la demande du gouvernement français, mais il n'y avait pas de trace écrite de cette demande, et c'est donc en fait la clé qui a déplu au général de Gaulle, la vraie raison, et en plus il a soupçonné la princesse Grace d'être restée très pro-américaine, ce qui était faux, elle était devenue 100% monégasque.
En fait, il va se créer une sorte d'alchimie avec l'arrivée de Grace Kelly à Monaco. La princesse Grace devient le symbole de l'incroyable expansion de la principauté sous le règne de Régnier.
Oui, et puis alors ce qui est drôle aussi, c'est que les monégasques, lorsque le prince était célibataire et avait eu une aventure avec la comédienne Gisèle Pascal, les monégasques avaient dit « Ah non, jamais une comédienne ne sera princesse de Monaco ». Ben là, ils ont été servis, mais ce n'était pas une comédienne, c'était une star et une femme merveilleuse.
Alors cette femme merveilleuse va s'investir dans beaucoup d'œuvres, évidemment, c'est son rôle de princesse.
Déjà, elle apprend le français, elle le dit à Pierre Desgroupes, elle apprend le français en 2-3 mois, elle a toujours gardé un
elle avait un fort accent américain, disons-le.
Oui, mais c'était charmant, et elle se passionne pour l'histoire, pour l'art, pour toutes les œuvres et tout, le travail d'épouse de souverain.
Au moment de son mariage, le prince Régnier répondait sur Europe 1 aux questions de notre rédaction.
Je suis très touché que vous la qualifiez de la plus belle histoire d'amour et qu'elle vous intéresse et qu'elle vous passionne, me fait aussi grand plaisir. C'est une histoire d'amour très, très sympathique et très, très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie et ce n'est pas du tout une histoire fruit de publicité ou artificielle. Quant à vous dire exactement comment nous nous sommes rencontrés pour la première fois, est-ce que même les amoureux les plus simples et les plus dans la vie que nous le savent, je ne sais pas.
Ça, c'était au micro de Pierre Laforêt, donc sur Europe 1, on disait à l'époque Europe numéro 1, le 23 mars 1956. Est-ce que cet amour, cette passion des premiers moments, s'est perpétué, Jean Descartes ? On a quand même beaucoup raconté de choses sur le couple Régnier-Grasse.
On raconte toujours beaucoup de choses, et surtout quand il n'y a rien à raconter. Mais ce que je puis dire, c'est que le prince Régnier m'a dit, et c'était confirmé par les attitudes de la princesse, quelles que soient les crises que peut traverser un couple, nous formions une bonne équipe. Et ça, je pense que c'est un compliment. Il savait ce qu'il devait à la popularité, à la classe, à l'allure, à la disponibilité, à la générosité de la princesse et à son humour, car elle était très drôle. Et le prince Régnier était lui-même un très grand politique et était très drôle et très séduisant. Donc, je pense dire nous formions une bonne équipe, c'est déjà rendre un hommage à l'autre.
Alors, cette belle association va être brutalement interrompue. En 1982, il y a donc 30 ans, c'est l'accident qui va coûter la vie à la princesse Grace. Et c'est l'objet de mon récit de maintenant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck sur Europe 1 qui relate aujourd'hui l'accident de voiture de la princesse Grace.
La fin de l'été 1982 s'est déroulée en famille à Rocagel, la résidence privée des souverains monégasques, mais la princesse Grace se plaint de rhume et d'une bronchite qui l'affaiblissent. Le lundi 13 septembre, à la veille de regagner Paris avec la princesse Stéphanie qui doit commencer un stage dans le monde de la haute couture, Grace regagne le palais princier, elle doit faire retoucher des robes qu'elle a prévu d'emporter avec elle à Paris et elle fait étendre toutes ses robes, vous savez, dans des housses sur les sièges arrière de sa voiture. Sa voiture est une Rover 3500, c'est une puissante voiture à boîte automatique. Seuls les sièges avant restent donc libres et c'est la raison pour laquelle la princesse libère son chauffeur et prend elle-même le volant. La route jusqu'à Monaco est une route de corniche bien, bien connue et célèbre. Je pense que tous ceux qui l'ont prise un jour savent à quel point cette route est dangereuse. Moi, c'est une route qui m'effraie littéralement, pour tout vous dire. Ça tourne dans tous les sens. C'est une des routes qui, 30 ans plus tôt, donc moins de 30 ans plus tôt, sous la direction de Hitchcock, aux côtés de Cary Grant, avait vu Grace Kelly jouer dans la main au collet. Cette route de montagne, donc, en lacets, toute de virages, de Ravin passe par le village de la Turbie, où se trouve la grande ruine romaine de la région, le trophée de l'empereur Auguste. Et avant d'arriver au troisième tournant, un virage en épingle à cheveux, la voiture se met à zigzaguer, elle se dirige inexorablement vers l'accotement droit, elle enfonce le petit rail de sécurité et elle bascule par-dessus bord en faisant des tonneaux. Elle ne s'arrêtera que 40 mètres en contrebas sur une sorte de terrassement, dans un jardin pour tout vous dire. Il est à ce moment-là 9h54 du matin. 15 minutes plus tard, les gendarmes, les pompiers, deux ambulances sont sur place. Alors tout de suite, le cas de la princesse Grace paraît beaucoup plus alarmant que celui de sa fille. Stéphanie devrait être hors de danger. Toutes deux n'en sont pas moins transportées aux urgences de l'hôpital de Monaco. Grace demeure inconsciente. Elle souffre de multiples blessures et de contusions, dont un traumatisme crânien. On l'opère longuement, en vain. Après 4 heures d'intervention, le docteur Jean Duplet, ne constatant aucune amélioration, demande un examen du cerveau par scanner. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'hôpital de Monaco est en travaux, en tout cas l'aile en question, elle ne dispose pas de scanner. Il va falloir conduire la très grande blessée, avec toutes les précautions que vous pouvez imaginer. Vous savez, quand on voit ces voitures ambulances qui avancent vraiment au pas, il va falloir la transporter jusqu'au cabinet de médecin privé, boulevard des Moulins. Le diagnostic à l'issue de cet examen au scanner est sévère. La princesse est atteinte d'une double hémorragie. Le cerveau a été touché. Il a été touché, semble-t-il, dès ce moment-là. On en est conscient tout de suite. Il a été touché de façon irrémédiable. Alors parallèlement, l'enquête avance, bien entendu. On essaie de saisir les causes de l'accident. Point essentiel, le scanner montre une lésion antérieure à celle laissée par le choc. Ce qui signifie donc que la princesse aurait été victime d'une légère hémorragie cérébrale en conduisant. C'est un petit accident qui, en soi, aurait pu être sans gravité s'il n'avait évidemment provoqué sa sortie de route. Une polémique est née très vite sur le point de savoir qui se trouvait au volant au moment de l'accident. Vous vous rappelez qu'on ne parlait même que de ça à l'époque. Certains journalistes ont prétendu que la princesse Stéphanie, elle avait 17 ans au moment de la tragédie, elle ne possédait pas le permis de conduire, la princesse Stéphanie aurait pu, disait-il, conduire la voiture. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que c'est un mystère qui n'en est plus un. En 2002, c'est-à-dire exactement 20 ans après les faits, la princesse s'est exprimée dans un long entretien à Paris Match sur le sujet et elle s'est exprimée en des termes on ne peut plus clairs, je ne conduisais pas, j'ai tout fait pour arrêter la voiture, a dit la princesse Stéphanie. Toutes ces calomnies qui ont été dites ou écrites ont entretenu un prétendu mystère. Je ne les supporte plus, ces polémiques, ajoutait la princesse. Et elle explique que c'est vrai qu'elle est bien sortie du côté du conducteur après l'accident, mais si elle est sortie du côté du conducteur, c'est parce que le côté passager était complètement enfoncé, qu'il était broyé, la tôle ne permettait plus d'ouvrir la portière et c'est pour ça qu'elle est sortie du côté du conducteur. Et la princesse Stéphanie en a profité pour qualifier de faux, totalement faux, les bruits qui faisaient état d'une dispute entre elle et sa mère la veille du drame. Voilà donc pour cette polémique. L'état de la princesse Grace à ce moment-là est extrêmement grave, sinon désespéré. Pourtant, les chirurgiens, Châtelain et Duplet, ne s'avouent pas encore vaincus. Ils vont tout, vraiment tout tenter pour essayer de sauver la princesse. Mais dans la nuit du 13 au 14 septembre, Grace est perdue, son coma s'aggrave et le mardi, peu après 22h, tout est terminé. Voilà ce qu'on entendait ce jour-là sur l'antenne d'Europe 1.
Une nouvelle que nous recevons à l'instant par l'agence France Presse, la princesse Grace de Monaco vient de mourir à l'hôpital de Monaco des suites de blessures qu'elle avait reçues dans son accident de voiture d'hier. Vous savez que la princesse Grace, qui redescendait de Montagel par la route de la Turbie vers Monte-Carlo avec la princesse Stéphanie, avait été victime d'un accident de voiture. La princesse Stéphanie avait tout juste quelques égratignures, quelques contusions. La princesse Grace, elle était plus sérieusement blessée. On avait appris par la suite qu'elle souffrait d'une fracture des fémurs, de plusieurs fractures des côtes et d'une fracture de la clavicule. Donc des blessures importantes, mais qui ne paraissaient pas mettre sa vie en danger.
Et pourtant, la princesse est bien morte. Alors une chapelle ardente est aussitôt dressée dans la chapelle du palais. Grace, vêtue de la robe de mousseline blanche qu'elle avait portée lors de son ultime apparition au bal de la Croix-Rouge, repose dans le cercueil capitonné de satin blanc. Les obsèques seront suivies à la télévision par la planète entière, disons-le. Elles auront lieu le samedi 18 septembre 82, en présence de beaucoup de premières dames et de représentantes des dynasties, régnantes ou non. Nancy Reagan, Daniel Mitterrand, la grande duchesse Joséphine Charlotte de Luxembourg, la princesse de Galles, Diana, la princesse Paola de Belgique, à l'époque elle était princesse, la princesse Bénédicte de Danemark, l'ancienne impératrice d'Iran, Farah Diba. Et puis, le 21 septembre, après avoir reçu un dernier hommage des Monégasques, Grace sera inhumée derrière l'autel de la cathédrale où elle s'était mariée un quart de siècle plus tôt et où viendra la rejoindre le prince Rainier un quart de siècle plus tard, le 15 avril 2005.
Sur Europe 1 de la Rhapsody in Blue de Gershwin.
Alors Jean Descartes, qui est avec nous dans ce studio, se rappelle évidemment les circonstances de ce drame. Il l'a vécu, j'allais dire, aux premières loges. Nous en parlons avec lui dans un instant.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous revenons maintenant, Franck, sur la disparition de la princesse Grace de Monaco en compagnie de votre invité sur Europe 1, Jean Descartes, qui est journaliste et historien.
Jean, vous êtes d'accord, c'est une route extrêmement dangereuse, hein, cette route de la Turbie.
Elle est tellement dangereuse. Alors, il y a tout un réseau routier, on le sait, donc c'est pas tout à fait celle de la main au collet, mais enfin, admettons, c'est un...
C'est tout proche.
C'est tout proche. Or, venant interviewer la princesse avec un photographe de maths, Jean-Claude Sauer, elle qui était toujours à l'heure était arrivée en retard et sa secrétaire nous avait dit la princesse arrive. C'est il y a très longtemps, il n'y avait pas de portable, etc. Et elle est arrivée dans un état de rage et de colère que je n'avais jamais vu, disant excusez-moi, il faut absolument que je parle au prince tout de suite, il faut appeler le préfet des Alpes-Maritimes, cette route est très dangereuse, quelqu'un va se tuer. Et cette prémonition ne m'a pas quitté quand j'ai été... en tant que journaliste et ami, à ses obsèques. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit est très important, c'était bien la princesse qui conduisait. Ce sont les pompiers qui ont sorti Stéphanie par la place du conducteur. On le sait d'autant plus que la voiture est tombée dans le jardin de la maison d'un de mes amis, en territoire français, ce qui a compliqué les démarches pour le temps que les autorités monégasques arrivent, si j'ose dire, les premières sur les lieux du drame.
Alors vous, en tant que journaliste, il a bien fallu que vous fassiez votre métier néanmoins.
J'ai fait mon métier, j'ai assisté avec consternation à la façon dont on a voulu salir la mémoire de Grace, qui était une femme qui avait eu sa vie avant d'épouser le prince Rainier, lui aussi, c'était des adultes. On a, parmi les insinuations qui ont circulé, on a assuré qu'elle était membre de l'organisation inquiétante du Temple solaire. Mmh. Tous les policiers L'OTS, que j'ai interrogés à ce sujet étaient formels, c'était n'importe quoi. Vous savez, c'est effrayant. Alors, que cette femme ait eu par moments des passages de dépression, c'est possible. Je sais qu'elle était inquiète de la santé parce que sa mère avait eu un problème de santé, un problème cérébral, donc elle se disait ça peut m'arriver. Mais la fatalité a fait que si elle a eu effectivement une attaque cérébrale sur une voiture puissante, en boîte automatique, le pied fait bondir ce 6-cylindres et à ce moment-là, la route est en fait mal, je dirais, protégée. C'est une succession de fatalités. Maintenant, je vous dirais heureusement qu'elle ne s'est pas réveillée. Personnellement, je n'imaginais pas une Grace Kelly, Grace de Monaco, démolie. Il fallait qu'elle soit belle et elle a été belle dans la mort.
Car le cerveau avait été gravement atteint. Ça a été un choc considérable dans la principauté.
Ça a été un séisme, j'allais dire, mondial, puisque même le Kampuchea démocratique, c'est-à-dire le Cambodge, qui était encore sous la terrible patte des Khmer Rouges, avait décrété un deuil de... 3 jours. Je voudrais juste...
Parce que le dictateur local devait être un fan.
Sans doute,
de
projeter ses films. Je voudrais juste simplement vous dire l'humour extraordinaire de la princesse. Lors d'un dîner privé à Paris, elle voulait revoir François Truffaut, qu'elle avait un peu rencontré, pour parler d'Alfred Hitchcock. Nous étions très peu à ce dîner. Et François Truffaut venait de finir son film « L'homme qui aimait les femmes ». Et la princesse lui dit « Monsieur Truffaut, je n'ai pas encore vu votre film « L'homme qui aimait les femmes ». « Madame, je vais vous le faire montrer ». Non, je vais aller le voir. Où avez-vous tourné ce film ? à Montpellier, madame. Ah, et pourquoi Montpellier? Parce que c'est la ville de France où, je pense, il y a les plus jolies femmes. Ah, mais alors je comprends pourquoi le prince Rainier a fait ses études à Montpellier. Oui, c'était son humour. Et je me souviens qu'elle était arrivée parfaitement à l'heure, car elle était la ponctualité même, dans une robe qui avait l'air d'être celle de Fenêtre sur cour, de tous ces films où elle
justement,
illuminait l'écran et la vie.
Vous étiez là le soir où on a appris la mort d'Alfred Hitchcock.
Oui, j'avais rendez-vous aussi avec elle pour des raisons journalistiques, avec un photographe, et elle a eu le courage de se montrer à nous dans cette maison à Paris, square de l'avenue Foch, où il y avait une ambiance épouvantable, on ne savait pas quel drame s'était joué. Elle a descendu un escalier, lui-même très hitchcockien, avec un mouchoir, elle était en larmes, et elle me dit « Je viens d'apprendre la mort de Hitch ». Alors nous nous sommes retirés, le photographe et moi, et elle a dit avec gentillesse, vous voyez la tête que j'ai, on ne pourrait pas faire de bonnes photos, je suis si triste. Mais ce qui était merveilleux, une leçon de courtoisie de sa part, c'est qu'elle n'avait pas fait annuler notre rendez-vous par son secrétariat et qu'elle a osé se montrer à nous sans maquillage, en larmes. Et je pense qu'elle était profondément sincère. Il avait été le mentor, il lui avait donné ses meilleurs rôles. Il avait essayé de la refaire tourner pour Marnie, mais les Monégasques s'y étaient opposés, ils ne voulaient pas perdre leur princesse.
Un mot, Jean Descartes, sur ce qu'il reste de la princesse Grace. C'est assez étonnant, on a célébré il y a quelques jours les 15 ans de la disparition de la princesse Diana, de la princesse de Galles, et on se rend compte que quelques années plus tard, son aura a beaucoup pâli, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire.
Je crois que ce n'est
ce
vraiment
pas le cas
pas
du tout. De...
Non.
Oui, c'est ça.
Non, vous savez, beaucoup de gens, y compris Cary Grant, y compris des écrivains écossais, ont dit « il y a des étoiles qui ne s'éteignent jamais ». Je pense que Grace Kelly, Grace de Monaco, est une étoile qui brille toujours.
Elle était la beauté, elle était le charme.
Le charme, la disponibilité, la générosité. Elle a empêché Joséphine Baker de sombrer dans la misère. Elle a aidé énormément de gens. Et ça, il faut tout de même le savoir. Elle était, mais comme tous les gens, très très bien, bien élevée, comme a dit Gary Cooper. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Elle était discrète.
Merci beaucoup Jean Descartes, vous nous avez fait partager l'émotion qui est la vôtre à chaque fois que vous évoquez celle qui fut, vous nous l'avez dit, peut-être pas tout à fait une amie, mais une relation amicale et en tout cas un exemple.
Quand j'ai écrit mon reportage, le cahier spécial du Figaro Magazine, c'est la seule fois de ma vie où j'ai écrit en pleurant.
La saga des Grimaldi de Jean Descartes, c'est aux éditions Perrin dans la collection de poche Tempus. For you. To give to you and to give to me love forever.
Un extrait sur Europe 1 de True Love, interprété par Grace Kelly et Bing Crosby. Extrait du film Haute Société, Franck.
C'est une spéciale dédicace pour Monique Descartes. J'étais en train de feuilleter, Julia, un très bel album.
C'est ce
qui
que je regardais tout à l'heure.
S'appelle Grace Kelly Éternelle. Alors, on a des très belles photos extraites de tous ces films, un article sur chacun des films. Et puis, quand vous ouvrez, vous voyez la première page, vous avez trois DVD avec notamment le fameux Fenêtre sur cour dont nous parlions tout à l'heure avec Jean Descartes. C'est un ouvrage qui est publié par Ipanema en partenariat avec Europe 1. Donc, il fallait le citer. Mais je le fais d'autant plus volontiers que c'est un beau livre. Merci Guillaume de L'Étrange d'être avec nous. Vous avez signé un documentaire, enfin toute une soirée télévision, disons-le, qui passe demain sur France 2 à 20h30 sur le thème non seulement de Grace Kelly mais de la famille Grimaldi en général.
Absolument. Bonjour cher Franck, je suis ravi d'être parmi mes complices pour cette émission.
N'est-ce
puisque et votre invité Jean Descartes et
vous-même. C'est un peu endogamique tout ça.
C'est l'intervieweur interviewé.
Ça, voilà.
Absolument. Ah bah d'abord, quelle merveille de se plonger dans toutes ces archives, parce que tout ce que vous venez de dire existe en images. C'est probablement la femme, une des femmes les plus filmées du XXe siècle, que ce soit aux États-Unis.
Vous aviez donc l'embarras du choix, en fait.
Absolument, hein. jusque les films privés, puisque une fois qu'elle a arrêté de tourner au cinéma, elle s'est emparée d'une petite caméra en Super 8, et il y a des centaines d'heures de films que Grace Kelly tournait elle-même, qui sont encore au Palais. J'ai eu la
on
chance de
les
pouvoir
voir,
les dérocher, et qui seront beaucoup de ces images seront dans l'émission de demain soir.
C'est vrai que vous avez visionné toutes ces heures de Super 8 totalement privées, c'est inédit ça ?
Absolument inédit. Frédéric Mitterrand, qui connaît bien la famille princière, également avait fait un documentaire avec quelques-unes de ces images, mais c'est très touchant parce qu'il y a plus que des films de famille, il y a un style Grace Kelly très, peut-être très emprunté
à
Hitchcock.
Un style dans la façon de filmer ?
Mais dans le style des films qu'elle fait, qu'elle filme ses enfants, son mari, sa vie au quotidien, elle-même à travers des miroirs. Enfin, il y a quelque chose d'assez onirique, assez touchant. Et effectivement, vous le disiez, elle est assez nuancée. Et au fur et à mesure de sa vie, avant sa mort, on sent une femme qui passe à la fois des moments merveilleux, mais peut-être aussi des moments de repli sur elle-même.
Alors, comme vous le disiez, Jean Descartes et moi-même avons participé à ce numéro spécial de Secrets d'Histoire, présenté comme à chaque fois par Stéphane Bern, bien entendu. Et vous avez, dans ce numéro, étendu le sujet, si je puis dire, vous nous racontez l'incroyable saga d'une des plus vieilles familles d'Europe.
Absolument, parce que, effectivement, Grace Kelly, très très connue, et aujourd'hui la famille princière, Albert II et son épouse Charlène continuent à faire la une des journaux, mais c'est vrai, je pense que les Français, et moi-même en premier d'ailleurs avant de m'attaquer à ce sujet, connaissent moins l'histoire de Monaco et de cette enclave sur notre territoire français.
Ça a été d'ailleurs une principauté bien plus vaste qu'elle ne l'est devenue, elle s'est rétrécie comme une peau de chagrin, et puis c'est seulement au 19e et surtout au 20e siècle qu'elle a retrouvé cette espèce d'importance financière, touristique, politique aussi.
Absolument, il y avait l'affaire des citrons de Menton. Une fois que Monaco perd ses territoire de Rue Brune et de Menton, le prince Charles III au XIXe siècle va devoir réinventer un nouveau système économique et va fonder Monte Carlo, un Mont Charles en italien, pour lui rendre hommage avec évidemment ses hôtels, son casino et puis son opéra.
Une des grandes questions qui se posent sont les rapports de la principauté avec la République française qui l'entoure, si je puis dire. C'est une petite enclave, Monaco, c'est vraiment pas grand-chose évidemment. Vous avez consacré un sujet à cette affaire et notamment au conflit dont nous parlions tout à l'heure, en 1962, conflit dans lequel la princesse Grace a joué un rôle.
Un rôle très important parce que le général de Gaulle, on le sait, aimait le charme féminin et était très séduit par Grace Kelly, tout en ayant peut-être une petite réserve, comme l'avait dit Jean, en pensant que Grace Kelly travaillait avec les Américains, comme si les Américains avaient une tête de pont, si vous voulez, en Méditerranée. Bon, ce qui s'est avéré faux. Et le prince Rainier aura un mot très drôle pour parler de cette crise de 62. Il dira ils ont voulu écraser un moustique avec une bombe nucléaire. C'était à peu près ça, puisque pour bloquer Monaco...
C'était un peu disproportionné.
Ils ont envoyé 6 gendarmes, je crois.
Alors, parmi toute la galerie des princes de Monaco, vous nous en présenterez demain soir un certain nombre. Quand je dis vous, c'est vous, Guillaume, qui avez fait le film, et c'est Stéphane qui va présenter tout ça. Il y en a un qui a peut-être plus marqué que d'autres. Il est d'ailleurs un peu le modèle et l'exemple de l'actuel prince souverain Albert II. C'est le prince océanographe, le prince Albert Ier.
Albert Ier, fantastique destin, un prince éclairé, le prince savant, qui, je dirais, peut-être un peu le symbole de son époque, c'est-à-dire l'émergence des sciences, des découvertes. C'est un prince explorateur qui va partir en bateau, car c'est une famille de marins avant tout, les Grimaldi, qui va même donner son nom à des espèces sous-marines, qui va fonder un institut à Paris de sonographique, le commandant Cousteau d'ailleurs dirigera.
Oui, bien sûr. Oui.
Il va également fonder l'institut de paléontologie, pardon, puisqu'il s'intéresse à toutes sortes de découvertes. Et en même temps, un humaniste, il va se positionner dans l'affaire Dreyfus. Il va être un peu le grand-père de notre ONU actuelle, de la Société des Nations. Il va jouer un rôle très important au tournant de la guerre de 14, en se positionnant et en essayant de pacifier les rapports entre l'Allemagne, la France, et les autres protagonistes.
Merci beaucoup Guillaume de L'Étrange. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'émission spéciale Secrets d'Histoire qui sera diffusée demain soir sur France 2 et présentée par Stéphane Bern. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors de Monaco, nous allons, va se passer une petite page de publicité et les infos pour atterrir à une réalité bien moins drôle, les impôts.
Ah oui, oh là là, mais c'est vraiment de saison avec tout ce que nous entendons.
Voilà, tout ce que nous entendons. Le dernier tiers à payer pour la semaine prochaine pour ceux qui ne sont pas mensualisés. Si vous ne voyez pas bien clair, si vous voulez en savoir plus, par exemple votre situation de famille a changé ou votre situation professionnelle, eh bien restez avec nous, les experts vous répondent en direct. Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter au 3921, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr.
Merci beaucoup Elena. Demain, nous parlerons d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, Julia. Nous parlerons de l'assassinat du duc d'Enghien. Et j'aurai pour en parler deux invités de marque, puisque Jean Tullard de l'Institut et Jean-Marie Roire de l'Académie française nous accompagneront. À demain donc.
À demain, avec grand plaisir.